Merci beaucoup. Oui, je crois que le micro marche, donc pas de problème. Je ne sais pas si les images marchent, mais je précise tout de suite, ce ne seront pas des images, c'est une illustration simplement, donc ça n'a pas une grande importance, mais voilà, si on peut les avoir en fond d'écran, ça c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais tout de suite préciser que je vais essayer de faire un exposé en trois parties, ça tombe bien, c'est comme dans l'exposition, mais n'hésitez pas à m'arrêter, c'est-à-dire à me dire, parce qu'au fond j'ai un propos qui est assez souple, donc limitez-moi dans le temps et dites-moi quand j'ai fini, enfin, une demi-heure, je commence maintenant. En préambule, je voudrais aussi indiquer quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec le propos d'aujourd'hui, mais je voudrais quand même y faire allusion. Je suis en grève aujourd'hui, comme beaucoup de collègues du Louvre et des musées nationaux, et je voulais quand même le faire savoir aux collègues, jeunes collègues qui sont présents ici, ou plus âgés d'ailleurs, qui sont présents également dans cette salle. Comme vous le savez, pour diverses raisons, notamment les volontés de changer les systèmes de gestion des musées, notamment l'ouverture de 7 jours sur 7 pour les trois grands musées nationaux que sont Orsay, le Louvre et Versailles, mais également le départ des réserves du Louvre ailleurs. Enfin, plus globalement, les problèmes de gestion, les problèmes de financement que subissent nos établissements, eh bien, beaucoup d'entre nous, et y compris donc les conservateurs et les personnels scientifiques dans leur ensemble des musées nationaux, sont en grève aujourd'hui. Et voilà, je voulais simplement en faire part. C'est une simple information que je fais de manière préliminaire, tout à fait en dehors du sujet d'aujourd'hui. Je m'en excuse. Je rentre dans le vif du sujet et je voudrais parler d'abord de la façon dont cette exposition est née pour essayer de situer les choses. C'est une commande. Je précise ça tout de suite parce qu'au fond, une exposition, vous le savez bien, tous, on rêve de faire des choses sur des sujets, etc. Mais dans la vie, les choses se font un peu différemment. Et dans ce cas-là, ça a été tout à fait le cas. Mais j'ai eu la chance, personnellement, d'avoir eu un rêve parce que je rêvais de faire cette exposition depuis des années, au Louvre en l'occurrence. Et puis, ça ne s'est pas fait, bon, pour diverses raisons. Mais le Centre des Monuments Nationaux, en la personne de Philippe Bellavaux, et puis auparavant déjà d'Isabelle de Gourcuff, l'administratrice de la Sainte-Chapelle et de la Conciergerie, ont eu cette idée que, à l'occasion évidemment du centenaire de la naissance de Saint-Louis, il était important, il était même indispensable qu'une exposition ait lieu dans la Conciergerie et puis aussi dans une partie des autres monuments nationaux. Donc je veux dire, c'est une commande, mais j'ai eu la chance au fond que pour moi qu'elle réponde à un rêve personnel que j'avais depuis longtemps. Deuxièmement, je voudrais préciser une chose sur la nature du travail. C'est une exposition dont j'ai été le commissaire, mais je voudrais insister sur le fait, et c'est vrai pour toute exposition, mais peut-être on ne le dira jamais assez, je voudrais insister sur le fait que c'est un travail collectif, un travail de longue haleine et donc forcément collectif, où j'ai été aidé et soutenu constamment par une équipe très nombreuse, très importante, tant du côté du CMN que au Louvre, j'avais une assistante qui est Christine Givet-Péclet, donc je voudrais remercier ici très vivement, qui m'assiste d'ailleurs en tout au Louvre, si je puis dire, mais qui m'a assisté particulièrement sur le commissariat de cette exposition. Et puis au CMN, j'ai eu la chance de bénéficier, j'allais dire, de l'aide à la fois de la structure centralisée du CMN, qui s'occupe des expositions notamment, mais également de toute l'énergie du monument. Donc j'ai au fond eu cette chance de bénéficier de ces deux soutiens. Néanmoins, et je voudrais tout de suite mettre des bémols, parce qu'au fond on est ici pour dire des choses assez claires, assez professionnelles, je parle devant des conservateurs et d'autres professionnels de la culture, et j'aimerais expliquer les difficultés que j'ai rencontrées, qui me semblent être ce qui est le plus important ici. D'abord, une première difficulté, c'est le fait que le président du CMN, Philippe Bellavaux, avec qui on a travaillé en très bonne intelligence, m'a quand même posé, j'allais dire, une sorte de problème, puisqu'il m'avait demandé de coordonner l'ensemble des manifestations concernant Saint-Louis pour le CMN. Et ça a été une tâche un peu difficile pour moi, je dois dire. D'ailleurs, j'avais en partie refusé, enfin j'avais accepté quand même de servir de garant scientifique en quelque sorte. Mais il s'agissait très clairement d'une tâche dépassant un seul homme, je le dis très clairement, non pas par modestie, mais tout simplement parce que physiquement, c'est un travail qui était trop lourd. Et du coup, j'insiste sur les limites de l'exercice. Je n'avais pas de comité scientifique pour cette exposition et pour l'ensemble des manifestations du CMN. Et je voudrais tout de suite le dire, pour une exposition de cette ampleur-là ou pour une manifestation de cette ampleur-là avec plusieurs expositions, c'était quand même une gageure et pour moi, évidemment, une difficulté de ne pas avoir de comité scientifique, c'est-à-dire de ne pas avoir l'appui d'un groupe de collègues. J'avais évidemment cet appui de manière informelle par les contacts que j'ai avec de nombreux amis et collègues, mais c'est une chose C'est une chose d'avoir ces appuis de manière informelle, c'est une autre d'avoir un comité scientifique qui vous aide. Donc je voudrais juste insister sur ça parce que, encore une fois, vous pouvez deviner la raison de cette absence de comité scientifique. C'est évidemment une question d'argent, une question de temps aussi, mais d'abord une question d'argent. Et aussi le fait que peut-être dans la culture du CMN, je le dis très librement parce que je me suis vraiment très très bien entendu avec les équipes là-bas qui sont révélées extraordinairement professionnelles, il y a peut-être juste une petite différence par rapport à la pratique qu'on a dans les musées et surtout dans un musée comme le Louvre, c'est peut-être le fait d'avoir un calendrier de préparation d'une exposition qui est un peu plus étroit, disons, que ce qu'on fait au Louvre. Donc pour une grande exposition au Louvre de cette taille-là, on prépare l'exposition 4, 5 ans avant, voire 10, quand on n'arrive pas à la programmer trop vite. J'ai été contacté 2 ans avant. Voilà. Donc, pour vous dire, c'est aussi une question de temps, mais j'insiste là-dessus, parce que ça me paraît important pour expliquer les difficultés que j'ai ressenties à certains égards. Il en va de même, d'ailleurs, pour les partenariats. À beaucoup de reprises, on a cherché des partenaires, on a cherché des mécènes, mais aussi des coproducteurs de l'exposition à l'étranger, dans différents musées. C'était évidemment trop tard pour diverses raisons, pour des grands musées internationaux comme le Met à New York qui pouvait être intéressé parce que la figure de Saint-Louis est une figure importante pour les États-Unis, hein, non seulement parce qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Louis, évidemment, mais plus généralement parce que la culture française, le Moyen-Âge représentent des sujets vraiment importants pour la culture américaine. Et la preuve, c'est qu'il y a de grands spécialistes de Saint-Louis, aussi bien en tant qu'historien qu'en tant qu'historien de l'art. Malheureusement, donc, s'y prendre 2 ans à avant, ça rend évidemment les choses impossibles avec des grandes institutions du type du Metropolitan Museum qui, comme le Louvre, évidemment, fait ses programmes 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans à l'avance. Même chose pour le mécénat. Le mécénat s'est trouvé très, très juste pour cette exposition. Je me plains pas du tout, hein, elle s'est très bien passée, mais pour une grande exposition de ce type-là, c'était quand même un petit peu difficile. Et on a eu beaucoup de mal à avoir des mécènes pour la même raison, parce qu'on s'y est pris un petit peu tard. Voilà. Ensuite, je voudrais rentrer juste dans le vif du sujet, parce que vous avez évoqué quelque chose qui me semble très important, c'est l'idée de la figure de Saint-Louis, en l'occurrence, et de ce que l'on voulait dire par cette exposition. Alors, je ne vais pas être très long là-dessus, parce que je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises, peut-être même ici, devant des personnes d'ailleurs qui étaient là. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est le fait que, dès le départ, je l'avais dit, je ne voulais pas d'une commémoration qui soit une sorte de célébration unanimiste à la gloire de Saint-Louis. C'était pas du tout le propos que j'entendais mener, et ça n'est pas le propos, je pense, qu'on doit mener aujourd'hui, en 2014, maintenant en 2015, par rapport à une figure historique, certes fascinante, moi qui me fascine, mais qui a sa part d'ombre, il faut bien le dire, comme évidemment son immense part de lumière. Et je voudrais à cet égard, vous avez parlé du 19e siècle, mais j'irai même moins loin. Je sais, pour en avoir parlé avec des collègues qui ont fait les expositions, qui ont vu les expositions, qui ont participé aux expositions précédentes, celles-ci, c'est-à-dire les grandes expositions auxquelles je rends hommage, hein, de 1960 à la Sainte-Chapelle et de 1970 à la Conciergerie, qui déjà commémoraient, mais encore au sens fort du terme d'ailleurs, la figure de Saint-Louis. En 1970 notamment, la figure de Saint-Louis, on est dans une période charnière, vous voyez, entre les deux, entre 1960 et 1970, il y a eu quand même 1968, comme vous pouvez vous douter. Et l'idée de la figure de Saint-Louis, non seulement en tant que chrétien, non seulement en tant que saint, mais également en tant que roi centralisateur, et surtout en tant que croisé, et en tant que figure emblématique d'un certain esprit, j'allais dire médiéval, avait du mal à passer auprès de certains secteurs de la population. Et je sais que le Saint-Louis, en quelque sorte célébré, a fait grincer des dents en 1970, parce que évidemment, il y a aussi le Saint-Louis qui part en croisade, il y a le Saint-Louis qui fait brûler le Talmud, et cet aspect-là était évidemment donc très important pour nous dans notre réflexion. Cela dit, je n'ai pas voulu, et ça a été une discussion, mais sur une exposition de cette taille-là, qui était une grande exposition, mais quand même pas immense, nous n'avons pas voulu faire une exposition historique. C'était la tâche, en quelque sorte, de Poissy, en grande partie, mais pas seulement. Notre exposition était centrée sur un certain nombre de questions, et beaucoup plus sur des questions d'histoire de l'art, même si pas uniquement. Et par conséquent, nous n'avons pas pu n'ont plus forcément apporté l'éclairage que nous voulions sur ces aspects-là. J'insiste là-dessus parce qu'il y a eu un colloque qui a été extrêmement riche et fructueux sur les aspects des rapports entre Saint-Louis et le monde juif, colloque qui s'est tenu tout naturellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme avec la complicité de son directeur, Paul Salmona. Néanmoins, je regrette personnellement, vous voyez, je vous donne un peu la série de regrets ou de difficultés qu'on a rencontrées, je regrette personnellement qu'il n'y ait pas eu le même éclairage, si je puis dire, contradictoire, contrasté du côté musulman. Malheureusement, les événements récents ont montré qu'il aurait été utile peut-être de rappeler la complexité des rapports entre Saint-Louis et le monde musulman. Je n'ai pas arrêté de le dire dans la communication qui a eu lieu autour de l'exposition. Saint-Louis a certes été un croisé, il a certes été en guerre contre le monde musulman en partant en expédition. Et en même temps, ce qui est très intéressant de sa figure et qui aurait pu être montré, peut-être encore mieux que nous l'avons fait à la conciergerie, c'est évidemment le fait que Saint-Louis réunissait en même temps les qualités d'un homme tellement intéressé par ce qu'il voyait, notamment en Orient. C'est un homme qui a quand même compris un certain nombre de choses et notamment a visiblement évolué. Et c'est pas moi qui le dis, c'est évidemment les grands historiens du fait religieux, notamment André Vaucher et bien d'autres. L'attitude de Saint-Louis entre sa première et sa seconde croisade est très intéressante, enfin, son évolution est très intéressante, puisqu'il part dans la deuxième croisade, certes toujours comme un chevalier, mais également comme quelqu'un qui part comme un missionnaire. C'est-à-dire, il y a une espèce de changement, on voit très bien que c'est la fin de la croisade, c'est la fin de l'esprit même de croisade, puisqu'il part avec l'idée de convertir avant tout, bien plus que de combattre. Mais voilà, je voulais juste faire ces petites précisions. Deuxième point, la scénographie. Alors, vous voyez pendant ce temps des images qui défilent. Peut-être certains d'entre vous ont vu l'exposition, donc je ne vais pas être très long. Et je voudrais insister en troisième point, surtout sur la médiation qui me semble plus importante. Mais un mot sur la scénographie. Je voudrais juste là aussi rendre hommage aux équipes qui ont travaillé avec moi et qui sont notamment l'agence Nathalie Crinière, avec Nathalie Crinière elle-même, et puis Anne Lebas qui était son assistante, qui a été vraiment la responsable de la muséographie. Mais également, je voudrais souligner le fait que dans cette exposition, l'éclairage et le graphisme, qui étaient confiés à d'autres sociétés, mais ça n'a pas une grande importance, ont revêtu une importance toute particulière. Alors je le dis de manière d'autant plus, sans complexe, que, et je suis très fier personnellement enfin du résultat pour notamment l'éclairage mais également le graphisme, que au Louvre même, dans ce grand musée national qui est censé être une vitrine de la muséographie en France, malheureusement nos résultats en matière notamment d'éclairage sont souvent très très déficients, non pas par la faute des équipes mais par la faute de muséographies qui sont assez vieillies, qui ne sont pas au niveau, et c'est un grand souci d'ailleurs de la direction actuelle du musée de remettre cet éclairage, cette signalétique également au niveau de ce qu'on attend aujourd'hui d'un grand musée international ou pas d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui. Donc j'étais d'autant plus fier que dans cette exposition, on voyait les œuvres, comme l'avait dit Jean-Luc Martinez lors de l'inauguration, on voyait les œuvres beaucoup mieux qu'au Louvre même, donc c'était quand même assez agréable de voir ça, ou désagréable si on se mettait du côté du conservateur que je suis aussi pour les collections permanentes, mais voilà le paradoxe, on fait souvent mieux dans les expositions que dans les collection permanente. Je voudrais aussi évoquer une seule chose ensuite un peu problématique deux choses peut-être problématiques qui me semblent intéressantes dans la muséographie. Je vais essayer d'être très court, comme ça je laisserai aussi la place aux questions qui, je pense, auront lieu au milieu de l'après-midi ou à la fin, tout à la fin. C'est tout à la fin, d'accord. Deux points problématiques. Pour certains qui ont vu l'exposition, vous aviez remarqué peut-être qu'il y avait cette première partie que nous avions voulu, les muséographes et moi-même, un peu resserrée, un peu intime, un peu, et parce qu'il y avait cette idée chez moi d'un chemin de la mémoire en quelque sorte qui, de manière comme une anamnèse, ramenait du 19e siècle vers le Saint-Louis médiéval. Alors c'était, je pense, assez réussi d'ailleurs visuellement. Malheureusement, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, ce côté un peu étroit du début, on n'avait pas imaginé un tel succès pour l'exposition, près de 200 000 visiteurs, c'est quand même fait beaucoup de monde, même pour la conciergerie, et il y avait un petit effet entonnoir dans cette première partie de l'exposition qui était un défaut, je le dis, vous voyez, très très clairement, même si on se rattrapait ensuite dans des espaces beaucoup plus aérés. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est la problématique des conditions de conservation et des rapports avec les prêteurs. J'ai eu beaucoup de chance donc de travailler à la conciergerie avec des équipes tout à fait professionnelles et dans un lieu qui, somme toute, climatiquement est extrêmement stable, hein, même s'il n'est pas il n'est pas climatisé évidemment, mais il est extrêmement stable. Les progrès, j'allais dire, dans l'ordre de la conservation préventive aujourd'hui sont tels que, fort heureusement, on a aujourd'hui un niveau d'exigence qui est très haut, hein, que ce soit en France ou à l'étranger. Néanmoins, je voudrais souligner le fait que, quand même, malheureusement, ça nous donne aujourd'hui des difficultés dans le dialogue avec certaines institutions, et notamment, même si je les ai citées de manière positive tout à l'heure, je vais les citer de manière négative, mais ce n'est pas les mêmes maintenant, avec les institutions américaines. Hein, il faut bien le dire, les institutions américaines, peut-être pour une raison que vous connaissez aussi, sans doute ici, qui est une raison institutionnelle, ont un regard sur la conservation préventive qui est un peu différent d'ici. Pour la raison, vous le savez, que les registrars, les gens qui s'occupent de conservation préventive, les restaurateurs, ont un pouvoir décisionnaire très important. Alors, c'est bien évidemment, parce que c'est pour la conservation des œuvres, mais je voudrais souligner que ça a été très difficile pour nous et que nous avons dû renoncer à des prêts, non pas parce que la climatisation ou que les conditions de conservation étaient mauvaises, elles étaient excellentes. On avait même des vitrines climatisées pour les œuvres les plus fragiles, celles de l'ABN, etc., qui ont été... C'était vraiment des conditions très bonnes, mais les demandes envoyées par certains musées américains, je le dis là vraiment de manière très très transparente, étaient vraiment irréalisables. C'est-à-dire, c'était par exemple le fait d'avoir une vitrine qui permettait de tester un an avant, pendant un an, les conditions de conservation pour savoir si oui ou non il prêtait un manuscrit. Alors, vous voyez, quand on fait l'exposition deux ans à l'avant, bon, il y a eu des choses qui ont été très difficiles dans lesquelles on a renoncé. Une sous-catégorie, j'allais dire, de difficulté dans cet ordre-là, qui n'est pas vraiment de l'ordre de la conservation préventive, mais je voudrais les évoquer tout de suite, et j'en finirai avec la scénographie, c'est le problème des fees, pour le dire de manière tout à fait neutre, et en fait, disons les choses clairement, c'est-à-dire des prêts payants que font certains musées. Alors, je suis mal placé pour en parler, puisque vous savez que le Louvre ne pratique pas les fees au sens propre, mais pratique malheureusement des expositions payante dans certains cas, mais la pratique des fees, évidemment, c'est-à-dire du fait de faire payer non pas seulement les coûts normaux, ceux d'assurance, ceux de transport, etc., se répand dans certains musées, et c'est très dommage. C'est très dommage non pas seulement parce que c'est une pratique qui, à mon sens, est dommageable, mais en plus parce que ça a failli nous faire renoncer à certains prêts à la dernière minute, et franchement, je peux vous dire, sur un budget, ce sont des sommes absolument considérables. Voilà, je dénoncerai pas ici les collègues qui pratiquent ça, je le dire en privé à ceux qui veulent le savoir, mais j'étais très étonné parce qu'on a appris, c'était deux institutions uniquement, hein, sur tous les prêteurs que j'ai eu, donc c'est vraiment encore minoritaire, mais c'est vraiment quelque chose sur lesquels nous au Louvre, les conservateurs en tout cas, on se bat très fortement pour dire nous faisons payer bien sûr, dans la mesure où c'est nécessaire évidemment, tous les frais liés à l'emballage, au transport, à l'assurance, etc., mais nous ne faisons pas payer en plus, les œuvres ne sont pas louées. Sauf, malheureusement, quand nous avons affaire à des expositions globales qui sont des locations, mais ça, c'est encore un autre cas de figure. Je voudrais en venir maintenant rapidement, vous me dites si je déborde pas trop de mon temps de parole, à la médiation. Et j'aurais voulu en parler plus longuement, c'est quelque chose qui m'est tout à fait cher, et j'en ai pas parlé jusqu'ici, je pense. La médiation a été, dans cet expo, assez simple, hein, c'est assez banal, donc je ne vais pas vous décrire ce qu'on a fait de manière détaillée. Je voudrais juste revenir sur les niveaux de médiation et sur leur impact. C'est ça qui me semble important. Bien sûr, nous avons eu un catalogue scientifique très important, d'ailleurs de taille assez raisonnable quand même, dont je signale d'ailleurs qu'il est réédité pour la quatrième fois et qu'il est maintenant broché, donc il passe à 10 euros moins cher. Donc ceux qui ne l'auraient pas encore, j'ai fait une petite peu de pub. Mais voilà, à part ça, pour moi, la médiation ne passe pas uniquement par le degré haut de la, je veux dire, des connaissances scientifiques. Bien sûr, il y a eu aussi un colloque scientifique au Louvre, d'ailleurs, qui a été réalisé en même temps. Il passe également par d'autres moyens. Et je voudrais insister sur ces moyens-là. Le moyen suivant, vous le connaissez bien sûr, c'est le moyen écrit, les différents moyens écrits qui sont dans les expositions, qui vont du cartel de l'œuvre jusqu'aux introductions, jusqu'aux panneaux. Mais il peut y avoir aussi des dépliants. On avait un dépliant en deux langues dans l'exposition. J'aurais juste là aussi insisté sur le fait que j'étais un petit mea culpa, une petite difficulté. L'exposition, pour ceux qui l'ont vu, je ne vais pas le redire parce que j'ai été très disert là-dessus. En général, était en trois parties, elle-même divisée en trois parties, elle était très structurée. Et nous avions mis des cartels, des grands panneaux d'introduction. Il y avait des cartels développés aussi sur certaines œuvres. Mais nous avions mis des panneaux d'introduction sur chacune des grandes parties. Mais j'ai beaucoup regretté parce que je me suis pas assez battu à un moment. C'est pour des raisons de place, simplement. À un moment, dans la muséographie, on avait mal pensé ça. Et on n'avait pas, vous voyez, de place pour mettre des panneaux au niveau intermédiaire de la hiérarchie. C'est-à-dire à peu près sur 9 parties au lieu simplement des 3 parties principales. Et c'est un point vraiment sur lequel je m'en suis voulu, si vous voulez, de ne pas avoir assez réagi à temps. Parce que j'ai constaté dans le public une grande appréciation de l'exposition, une grande compréhension globale de la scénographie qui était assez fluide, assez claire. Mais de temps en temps, un point de contact, j'aurais préféré avoir... Enfin, personnellement, je trouve que les longs discours sont ennuyeux, difficiles, perdent le public, mais un discours qui est placé au bon endroit, c'est plus important. Et j'ai regretté beaucoup d'avoir raté, si vous voulez, cette marche, en quelque sorte, dans le discours, même si, globalement, c'était quand même, je pense, assez compréhensible. Tout dernier point, et je m'arrêterai là, la médiation humaine. Je voudrais vraiment insister sur ça pour finir. D'abord, nous avons évidemment beaucoup pratiqué la médiation, si je puis dire, quotidienne et j'allais dire celle du commissaire d'abord, parce que c'est une médiation très importante, celle qui consiste à parler de l'exposition avant et au début de l'exposition, à la fois à ceux qui vont la porter, à tous les agents du CMN, à ceux qui s'occupent notamment de la communication, du mécénat. Et ça fait partie vraiment pour moi de la médiation au sens propre, c'est pas seulement de la communication, c'est de la médiation. Mais je voudrais dire aussi deux choses là-dessus. C'est le fait que je pense beaucoup que la médiation humaine est un facteur essentiel et trop négligé dans nos institutions en France, en tout cas, ou dans les expériences que moi je peux avoir dans les musées où je travaille. En effet, vous le savez, les discours, et en France on est un pays de j'allais dire de droit écrit, mais le droit romain l'a emporté sur la coutume de Beauvaisis, comme aurait, c'est, mais enfin bon, c'était déjà du droit écrit, me corrigera mon voisin, mais malgré ça, malgré cette prégnance de l'écrit, et on sait que dans les expositions, nos concitoyens aiment lire, aiment regarder, sont effectivement très attentifs aux signes écrits. Mais je crois beaucoup aussi à médiation humaine et au discours oral. En effet, il y a deux raisons à cela. D'abord parce que je pense que du point de vue de la complétude du discours, c'est très important de ne pas s'arrêter à ce que disent les cartels, à ce que dit simplement un discours qui est celui du conservateur à un moment donné. Personnellement, je me suis rendu compte au fur et à mesure que l'exposition passait que il y a des choses que j'avais pas dites, je découvrais des choses évidemment qui étaient très intéressantes et qu'on a essayé de transmettre par les conférenciers, par les gens qui faisaient visiter l'exposition et qui étaient au fond un enrichissement auquel je crois beaucoup. Et voilà, l'écrit évidemment fige les choses, mais bon, il a son avantage, mais il faut aussi avoir conscience que l'oral, c'est aussi un moyen très très important de faire passer des messages. Mais surtout, je voudrais insister enfin sur une dernière chose. C'est le fait que le CMN, c'est ça qui m'a fait beaucoup réfléchir à ce sujet-là, non seulement à des conférenciers qui sont donc venus, j'ai fait des formations, j'ai beaucoup parlé avec les conférenciers, avec également les professeurs des écoles ensuite qui faisaient visiter. Donc il y avait tout un ensemble de gens que j'ai beaucoup vus, à qui j'ai transmis les messages, etc. Mais je voudrais insister sur une dernière chose, c'est le fait, comme vous savez, que le Centre des Monuments Nationaux, par tradition... notamment dans les sites, j'allais dire, non parisiens, mais c'est vrai également à Paris, donne la parole aux agents d'accueil et de surveillance. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Pourquoi ? Dans la transmission que j'ai faite de l'exposition, j'ai donc transmis des choses aux conférenciers. J'ai transmis également des choses aux agents d'accueil et de surveillance. Certains d'entre eux, c'est organisé comme ça, en tout cas à la conciergerie, il y en a certains qui font des visites, d'autres non. Et le type de visite que font les agents d'accueil et de surveillance est un type de visite différent, souvent plus court, plus grand public, sans aucun mépris de ma part quand j'emploie ce terme-là, bien sûr. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que le fait que ces agents-là ont la parole, pour moi qui suis dans un musée où les agents d'accueil et de surveillance n'ont pas la parole, c'est extrêmement important comme expérience parce que non seulement ça veut dire que le discours qu'on fait peut éventuellement passer mieux chez certains types de visiteurs, mais ça veut dire aussi, et j'insiste sur ce point parce que c'est un point qui est brûlant aujourd'hui d'actualité, c'est que dans la cohésion sociale et dans la cohésion d'entreprise, si j'ose employer des termes comme cela, de l'institution, il y a évidemment une circulation de l'information, une circulation de la connaissance et un partage de la valeur de l'exposition qui est absolument différent de celui que nous en vivons au Louvre, par exemple, ou dans les grands musées nationaux qui ne pratiquent pas ça. Il y en a quelques-uns qui le pratiquent, mais la plupart ne le pratiquent pas. Parce que ça rend évidemment cette parole possible. Alors j'insiste là-dessus parce que vous savez, il y a cette fameuse, peut-être pas pour vous, mais pour moi évidemment c'était fameux quand j'étais enfant, le fameux sketch de Jacques Dufilho avec la visite de la chapelle entièrement refaite, etc. Bon, et on se moquait beaucoup des monuments historiques pour ça, en disant, ben au fond, ils ont un type de visite qui parfois peut-être plus anecdotique, peut-être plus tourné vers un public finalement qui est là en vacances, qui va regarder le château. Et bon, certes, mais je crois que on voit très bien que cette appropriation des sujets, cette appropriation de la médiation par les agents, eh bien, c'est une vraie leçon pour nous, enfin en tout cas pour moi, pardon, dans un musée comme le Louvre, parce que je pense, et c'est une des grandes parties de notre problématique aujourd'hui au Louvre, que les agents d'accueil et de surveillance ont en partie à se réapproprier ce discours, qui est un discours essentiel si on ne veut pas qu'ils soient uniquement des gardiens, car si ce sont des gardiens, ils seront externalisés demain. Et évidemment, personnellement, je pense que c'est mauvais. Je sais très bien ce que ça donne. Je vois, je ne veux pas citer d'exemple et rentrer dans des débats qui seraient un peu loin du sujet d'aujourd'hui. Mais personnellement, je pense beaucoup à l'intégration des fonctions et je pense beaucoup aussi à l'enrichissement que ces personnels-là nous apportent. Moi, tous les jours, je travaille avec les agents de surveillance. Je peux vous dire, ils ont des expériences à nous donner. Certains sont compliqués, certains sont pas bons. Moi, j'ai vu des agents de surveillance qui sont évidemment très compliqué. D'autres parlent beaucoup mieux anglais que moi, parlent toutes les langues, sont des gens incroyables qui ont des diplômes extraordinaires, bien plus doués que moi. Et je peux vous dire que travailler avec eux, c'est vraiment, à mon avis, l'avenir, une grande partie de l'avenir de la médiation, évidemment avec des difficultés quand on est dans une grande, grande, grande institution comme le Louvre. Mais je pense profondément que c'est un discours que j'essaye de faire passer et dont je voulais profiter aujourd'hui pour l'exprimer. Merci de votre attention.